VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité internationale. En Turquie, au moins 41 personnes, dont 13 ressortissants étrangers, ont trouvé la mort. Et 239 personnes ont été blessées dans une nouvelle série d'attaques coordonnées à Istanbul, la première ville du pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
La Turquie pointe du doigt le groupe État islamique. Hier, des kamikazes ont ouvert le feu dans l'aéroport international d'Istanbul avant de se faire sauter, tuant au moins 41 personnes, dont 13 étrangers. Ces attaques coordonnées sont les plus meurtrières en Turquie, déjà visées 3 fois cette année par des attaques terroristes qui n'ont pas été revendiquées. Le président américain Barack Obama a offert à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan l'aide des États-Unis pour l'enquête. Depuis un an, des attentats à Istanbul et Ankara ont fait près de 200 morts et des milliers de blessés. Le tourisme, l'un des grands pourvoyeurs de devises du pays avec près de 30 milliards d'euros par an, commence à subir les effets pervers de ces attaques.
Que font les autorités turques à Istanbul pour rassurer la population et promouvoir le retour à la normale? Un début de réponse avec Muriel Domenac, consul de France à Istanbul, au micro de John Lyndon.
Les mesures de sécurité ont été renforcées et l'aéroport a rouvert avec une sécurité renforcée. Les vols atterrissent depuis 5 heures du matin et repartent à partir de ce soir avec une sécurité renforcée, bien sûr, à l'aéroport.
Est-ce que vous avez une idée des auteurs de ces attaques?
Bon, écoutez, les autorités turques ont désigné Daesh et le mode opératoire semble effectivement concourir à cette thèse.
À votre avis, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi Daesh attaquerait Istanbul?
C'est pas la première fois que Daesh attaque Istanbul, c'est déjà la troisième fois. Il y avait eu un attentat le 12 janvier à Sultanahmet, dans le quartier des mosquées. Le 19 mars, dans la grande rue d'Istanbul, Istiklal, Caddesi. Et aujourd'hui, c'est l'aéroport. Donc, vous voyez, c'est assez cohérent. Daesh attaque les étrangers et le tourisme à Istanbul.
Muriel Domenac, consul de France à Istanbul, en Turquie. L'Afrique maintenant, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution pour reconduire et renforcer le mandat de la MINUSMA au Mali. Le texte présenté par la France, qui assure la présidence tournante du Conseil, prévoit l'envoi d'un renfort de 2000 casques bleus et 500 policiers à la mission onusienne en territoire malien, ce qui fera passer les effectifs de la MINUSMA à 13 289 soldats et 1920 policiers. Le mandat de la mission est également devenu plus offensif suite à la vague d'attaques des djihadistes contre les casques bleus. Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité continue à Abidjan. Un ex-chef de milice partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo a accusé Simone Gbagbo hier d'avoir financé son mouvement. On retrouve Claire Morin-Gibourg.
Le détenu Moïse Harold Metch est arrivé menotté à l'audience à la cour d'assises d'Abidjan. Celui qui se fait appeler commandant Hôtel ou colonel H s'est présenté comme le chef du GPP, le groupement des Patriotes pour la paix, une des nombreuses milices qui sévissaient sous le règne de Laurent Gbagbo. Le GPP avait été créé pour le maintenir au pouvoir, a expliqué le témoin à charge, assurant que l'ex-première dame était leur financière. L'ex-milicien a expliqué hier, pendant près d'une heure, le rôle et les actions de son mouvement. Notre rôle était de réprimer les manifestations de l'opposition pro-Ouattara, a-t-il déclaré, ajoutant que les membres du GPP disposaient d'autorisations de port d'armes qui leur permettaient d'intimider les opposants. Madame Gbagbo, qui avait déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, comparaît depuis le 31 mai, accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burundi, plus de 200 personnes ont été arrêtées ce mercredi sur les grandes places de la capitale Bujumbura par des policiers qui étaient à la recherche des mendiants. Parmi les détenus, des femmes, des jeunes et des gens âgés. Le nombre des mendiants augmente de jour en jour ces derniers mois dans la capitale burundaise et le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, a annoncé il y a deux semaines l'intention du gouvernement de chasser les gens sans emploi et de les faire retourner dans leur province d'origine. Plus de détails avec Christophe Nkurunziza, notre correspondant dans la capitale burundaise.
Depuis 8h GMT, soit 10h heure de Bujumbura, des policiers et militaires étaient à la recherche de tout ce qui ressemble à des mendiants sur les grandes artères de Bujumbura. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et conduites dans un local de la mairie de Bujumbura pour être enregistrées. Parmi eux, des jeunes de la rue, de petits enfants que certaines mamans amènent dans la ville pour mendier à leur compte, des handicapés, des personnes âgées. Un des responsables d'une association qui représente les droits de l'enfant, Jacques Chimilimana, il serait judicieux que le bienfaiteur aide ses enfants en sachant où les trouver. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, affirme que ce travail de faire mendier des enfants mineurs doit impérativement cesser. Les mendiants doivent retourner sur leur colline d'origine pour s'adonner à l'agriculture ou à d'autres métiers. Ce jour, personne ne sait exactement le nombre de jeunes de la rue au Burundi, mais pour des organisations qui aident la jeunesse, ces jeunes se comptent par dizaines de milliers. Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura, avait déclaré il y a deux semaines que ces jeunes qui pullulent les rues de la capitale sans emploi seront reconduits sur leurs collines d'origine. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
RDC, l'opposition congolaise dit non à l'appel du président Joseph Kabila à participer à l'enrôlement. La coalition des Congolais pour la transition dénonce une tentative de distraction du peuple congolais et de la communauté internationale quant à la date constitutionnelle de la présidentielle. Les explications d'Emery Damien Kalouira, président de la CCT.
Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la Constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité. Les Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila en vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir
jeter
à la poubelle.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition, est toujours en RDC. Le procès de 32 Bantous et Pygmées est en cours à Lubumbashi au Katanga. Les prévenus sont accusés de crimes contre l'humanité et de génocide en rapport avec des affrontements intercommunautaires en 2013 dans cette région du sud-est du pays, Eddy Sango.
Après trois renvois successifs, la cour d'appel de Lubumbashi a siégé hier en audience foraine à la prison Kasapa de Lubumbashi, où sont internés les accusés. L'audience qui a duré près de 4 heures a été consacrée à la lecture des actes d'accusation et à la présentation des 4 premières victimes. Le nord du Katanga a été le théâtre depuis 2013 des nombreux affrontements entre Bantous de l'ethnie Luba et Pygmées de l'ethnie Tswa. Ces combats ont entraîné des tueries à répétition, pillages, incendies et déplacements des populations.
Union européenne pour terminer, Bruxelles a accueilli un sommet pour la première fois sans les Britanniques. Les dirigeants européens ont averti le Royaume-Uni qu'il ne pourra pas négocier un accès à la carte au marché unique après sa sortie de l'UE. Nathalie Barge.
Les dirigeants ont dit que l'accès au marché unique nécessite d'accepter les libertés fondamentales de l'Union européenne, y compris la liberté de mouvement, a déclaré le président du Conseil européen Donald Tusk. Pour le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, son pays confronté aux séparatistes catalans s'oppose à ce que l'Écosse soit partie prenante de toute négociation post-Brexit. Si le Royaume-Uni part, l'Écosse partira des institutions de l'Union européenne, a-t-il argumenté. Pour sa part, le président français François Hollande s'est prononcé contre une remise en cause de l'accord du Touquet signé avec Londres qui vise à contenir l'immigration clandestine vers le Royaume-Uni. Ceux qui aujourd'hui demandent sa suppression sont ceux-là même qui l'ont conclu, a relevé M. Hollande, rappelant qu'il devait retrouver le Premier ministre démissionnaire, David Cameron, vendredi lors des commémorations du centenaire de la bataille de la Somme.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.